Radio Barc, notre troisième partie, a prévu, comme annoncé Guillaume Heras. Alors, vous êtes maire de Saint-Marcel, la commune, et puis vice-président du Grand Narbonne chargé de l'environnement. Voilà deux casquettes importantes dont on va essayer de voir un petit peu ce que cela recouvre. Une question que l'on fait remarquer très souvent aux élus communautaires, puisqu'ils sont aussi des élus municipaux d'abord, c'est qu'on a l'impression, ça leur plaît pas toujours, que à cause de l'agglomération, ils n'ont plus grand-chose comme responsabilité et plus grand-chose à faire dans leur commune. Et en général, les maires s'inscrivent en faux contre ce genre d'affirmation. Guillaume Heras.
Non, je m'inscrirai pas en faux. C'est juste que les compétences se réorganisent et il se fait maintenant des choses à l'agglomération qui se faisaient dans les communes. L'agglomération est passée d'une vision de syndicat à monocompétence ou directement dirigée par l'intégralité des élus de petites collectivités. Moi, je crois que on est en train de clarifier le paysage des collectivités. Je suis toujours un fervent défenseur des communes dans le sens où il y a une notion de proximité, il y a une notion de local qu'on ne pourra jamais enlever. C'est une spécificité française et il faut faire porter la voie communale. L'agglomération a une vision territoriale d'aménagement de territoire, de l'économie, vous l'avez dit, du tourisme, de la gestion des déchets, l'environnement dont je m'occupe, de l'eau, de l'assainissement, des choses qu'il faut traiter avec un regard territorial, avec beaucoup plus de technicité, avec un service public porté par des fonctionnaires de valeur et organisé de façon plus large sur le territoire. Ouais. Voilà. Donc, il faut pas mettre en opposition l'un et l'autre ou les élus.
C'est pourtant une tendance assez répandue.
Il est clair que justement, pour moi, les deux échelons sont essentiels et qu'il y ait un regard des élus sur les deux échelons est essentiel.
Alors, en tant que maire de Saint-Marcel, dites-nous, par exemple, sur quoi vous travaillez aujourd'hui.
Alors, je reviendrai sur Areva après parce que j'aimerais aussi donner mon avis.
De par l'environnement, on va y revenir.
Bien sûr. Bon, Saint-Marcel, nous travaillons. On est à mi-mandat aujourd'hui, donc on a passé les trois premières années de fonctionnement, de réflexion, de préparation des investissements et puis on a 3-4 gros projets qui vont démarrer. On va détruire la cave coopérative et faire le premier bâtiment public dans ce nouveau centre du village.
Oui, vous avez une salle multimodèle apparemment,
qui est moins contestée
que celle de Narbonne.
La coopérative qui est un 3-en-1 avec du sportif, du culturel, de l'associatif.
Oui, c'est bien du multimodal.
Voilà,
oui.
C'est du multimodal. Et puis on a aussi...
Où est-ce que vous en êtes sur ce projet ?
On commence le désamiantage très prochainement de l'ancienne cave coopérative. On l'aura détruite d'ici mars. Et puis les travaux devraient commencer en septembre 2018 pour être finis fin 2019.
Voilà, suffisamment à temps pour que Monsieur le maire puisse l'inaugurer dans le mandat.
Ce sont des projets qui se portent sur 6 ans, c'est vrai, pendant un mandat qui nous a été confié et sur lequel nous avons été élus. Donc la réflexion, la recherche des financements, la consultation des acteurs du village, des associations, des particuliers, la présentation et puis les appels d'offres et la réalisation.
Et quelques retards de travaux comme c'est souvent le cas
et,
aussi.
Et quelques difficultés d'amiante, quelques difficultés sur la lourdeur d'un projet tel quel. Voilà, mais on fait aussi un centre médical, on fait aussi de la voirie, on fait aussi beaucoup de soutien aux associations qui sont très dynamiques qu'il y a dans le village et donc qui font que nous avons la différence entre un village dortoir et un village dynamique. Mmh. Voilà.
À propos de désert, de centre médical justement, est-ce que Saint-Marcel est touché par cette désertification médicale
Saint-Marcel est touché. Il y a quelques années, un médecin a pris la retraite. Nous avons un médecin généraliste qui travaille beaucoup et qui ne pourra pas dans l'avenir suivre avec l'augmentation de population. Nous avons une démographie positive dans notre agglomération. Et puis il faut anticiper dans quelques années.
Donc que fait le maire là pour aider ou à contrecarrer
le maire déjà ne fait rien tout seul. C'est un conseil municipal qui prend les décisions. Non mais c'est important de j'ai compris votre question. C'est important de dire voilà et puis un service public aussi avec des fonctionnaires territoriaux. Nous faisons un projet immobilier. Et puis
avec un centre médical donc
nous faisons un projet immobilier parce qu'on est dans une zone grise, on n'est pas dans une zone blanche, on est dans une zone qui n'a pas de subvention, on n'est pas dans un schéma voilà. Et donc nous prenons les choses en main plutôt que de pleurer et puis nous faisons un projet immobilier dans lequel nous espérons accueillir en mettant des loyers assez attractifs en faisant de la publication voilà
attirer les médecins pour que les Saint-Marcellois puissent continuer à se soigner comme partout ailleurs. Alors venons maintenant à votre casquette, votre responsabilité de vice-président de l'agglomération, l'environnement. Alors l'environnement, c'est un mot que parfois on colle un petit peu à toutes les sauces, mais concrètement, dans une territorialité comme une agglomération, c'est quoi ? C'est le traitement des déchets ? C'est les stations d'épuration ? C'est tout ça ?
Alors en compétence propre, c'est réellement la gestion des déchets, la collecte et le traitement. Et en compétence transversale, parce que nous travaillons beaucoup en transversalité, c'est la croissance verte, c'est la transition énergétique, c'est le plan climat, c'est se projeter avec une vision sur l'avenir à long terme. C'est l'éolien flottant à Port-la-Nouvelle, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, qui est liée au tourisme également, mais qui est liée aussi à une anticipation de la précarité énergétique. C'est beaucoup
mais
de transversalité.
De la compétence environnement.
Non, on est en transversalité là. La compétence environnement, c'est réellement la collecte des déchets, le traitement et la gestion. Mais c'est vrai que nous avons une vision et sur un projet de territoire de croissance verte, transition énergétique.
Non, voilà. On va revenir là-dessus avec des exemples concrets justement.
Oui, sur les déchets. Je voulais dire sur Areva, effectivement, il y a la difficulté dans ce dossier, c'est qu'il y a vraiment deux oppositions très tranchées. J'entends, moi, des gens qui sont
avec
très
des
positifs.
Exagérations souvent de part et d'autre.
Alors, exagération, moi j'irai pas jusque-là. Ce sont des sensibilités personnelles déjà.
Mais exacerbées quand même.
Exacerbées, oui. Mais certains me disent développement économique, 80 millions d'euros d'investissement, 25 emplois, on a besoin d'emplois. D'autres me disent leur peur, leur angoisse. On en parlait en aparté. Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière. Il faut l'entendre aussi, cette peur du passé, cette peur du passé qui est encore dans les esprits, mais comme le disait Michel, il y a quand même dans notre région des pratiques qui ont changé. L'article du Monde faisait état de il y a 50 ans le site avait joué aux apprentis sorciers. Voilà, maintenant moi sur
on
la
essaie
procédure,
de réparer peut-être des erreurs passées.
Alors je vais y venir. On est sur une procédure qui a duré 2 ans. On est sur des parties qui se sont exprimées. Nous, en tant qu'élus, nous avons fait le constat que nous ne sommes pas des experts. Nous avons fait le constat que nous avons entendu la population et les craintes et nous avons voté en conseil municipal. Nous avons délibéré en conseil communautaire au Grand Narbonne en demandant au préfet de nommer des expertises indépendantes. Il a repoussé le CODERST, qui est l'organe qui devait émettre un avis. Il a repoussé sa décision. Il a nommé 2 expertises indépendantes qui se sont prononcées sur les 2 sujets qui étaient en question, c'est-à-dire ce procédé industriel n'avait jamais été testé Et donc, est-ce qu'il y avait des procédés industriels alternatifs? Et la deuxième, sur le thème de la santé. Bon, les résultats d'expertise indépendante ont eu lieu. Le préfet a pris acte, il a pris ses responsabilités sur la base de ses expertises, et donc il a autorisé ce projet. Il a autorisé ce projet sous réserve de limitation des rejets et avec un contrôle beaucoup plus important que ce qui était prévu. Je prends acte, c'est un peu comme la justice, quand elle est rendue, on ne commente pas. Donc je ne commente pas, je prends acte de la décision du préfet, et en tant qu'environnement, il y aura une commission de suivi à laquelle l'agglo participera, et nous serons vigilants. Voilà, point.
Voilà, les choses sont dites, et donc une mission de surveillance pour un processus qui va s'engager maintenant, probablement et rapidement.
L'aspect positif quand même de cette affaire-là aussi, en fait, hein, Jean-Claude et Guillaume, c'est que les Narbonnais se seront rendus compte, peut-être pour la première fois depuis fort longtemps, qu'il existait une usine, effectivement,
ah oui,
de ce type.
Une usine atomique, entre guillemets.
Et qui est une, non, qui est même pas atomique, d'ailleurs, hein, puisque c'est une usine
dès qu'on traite de l'uranium.
Bien sûr, exactement. Alors que l'uranium, quand il n'a pas été traité dans une centrale, c'est comme le granit, hein.
Il est radioactif.
Mais quand même, une des seules quatre usines mondiales qui est capable de traiter effectivement le minerai pour pouvoir alimenter ensuite les producteurs d'électricité.
Voilà, on a rendu on a rendu à César ce qui appartient.
Et on oublie souvent sur le débat. Merci Michel de me permettre de rebondir. Il y a des bassins avec des quantités très importantes de nitrate à l'air libre.
Accumulé depuis
des décennies. C'est l'origine aussi de ce procédé mis en place, des mètres cubes et des mètres cubes qui, s'il y a un événement Cévenol ou une inondation comme cela s'est déjà produit, partiront dans la nature, dans la nappe phréatique, et qu'il faut traiter, et qui seront traités par ce dispositif. C'est vraiment le danger aujourd'hui, et c'est vraiment la progression vers l'avenir. Mmh. Voilà.
Voilà.
Bien, alors, on va parler des projets de l'agglomération.
Revenons sur là où vous avez un véritable pouvoir, Guillaume Heras. Si vous permettez une petite parenthèse quand même politique, politicienne, même si je sais que vous n'aimez pas trop ça. Au printemps dernier, vous aviez soutenu, je crois, en tant que maire, la candidature de Monsieur Macron. Bon, c'était une décision de l'époque. Est-ce que ça, pour vous, il y a eu une suite, ou pour vous, c'est maintenant affaire classée, on est passé à autre chose?
Déjà, je pense qu'un mandat dure 5 ans et qu'il faut attendre les 5 ans pour voir effectivement.
Mais vous ne regrettez pas, a priori, votre choix, c'est ça que je veux dire.
Je ne regrette pas mon choix. J'entends beaucoup de décisions positives. Tout ne peut pas être bon dans les décisions et faire plaisir à tout le monde. On a un pays difficile à gouverner. Je suis plus dans l'optimisme que... On va parler des mairies, hein. Effectivement, les contrats aidés sont supprimés. Effectivement, il va falloir que nous trouvions des solutions. Et pour les personnes qui bénéficiaient des contrats aidés et pour nos finances. Voilà. Maintenant, il faut aller vers l'avant. Il faut développer, il faut créer des recettes. Hein. Ces emplois précaires, ils restaient dans la précarité parce qu'on ne les titularisait pas ou parce qu'on en abusait trop alors qu'on pouvait les titulariser. La dotation globale ne va pas descendre dans les communes. Bon, tout n'est pas négatif et dans 5 ans, on verra. Voilà. On savait qu'il fallait je parle pour les collectivités, hein, qu'il fallait participer. Moi, mon prédécesseur en tant que maire, que je salue encore une fois, avait anticipé en faisant du photovoltaïque, avait des finances nettes, et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir planifier des investissements. Bon, voilà, peut-être que j'ai cette vision optimiste parce que mon prédécesseur nous a laissé une situation financière très bonne. Bon. Voilà. Mais non, je regrette pas. J'attends surtout de voir dans 5 ans. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des décisions courageuses qui sont prises et qu'on avance. C'est toujours comme ça en début de mandat. Hein. On prend les décisions défavorables au départ et puis après.
C'est comme ça qu'on doit faire quand on est habile.
Voilà.
quand on voilà. est habile.
Alors, maintenant, j'aimerais vous parler de 3-4 voilà. sujets. Je pense que j'ai plus beaucoup de temps.
Oui, alors, par exemple, parmi les gros projets qu'il y a au niveau environnement, il y a un centre de recherche Suez, par exemple.
J'en ai déjà parlé ici, oui, un centre de recherche Suez.
Où est-ce qu'on en est ?
Écoutez, il sera inauguré l'année prochaine. Hein, il est toujours
d'actualité. À Prat de Sest. Hein,
L'instruction du permis de construire des bâtiments devrait être déposée en mairie le mois prochain. En mairie de Narbonne. Donc ça, c'est la partie construction, mais la partie financement du groupe Suez est mise en place. Des processus a déjà démarré. Hein. Ces chercheurs travaillent à Paris, travaillent un peu sur...
Ils sont appelés à venir chercher, si je puis dire, ici à Narbonne. Alors, rappelez-nous, Guillaume Heras, de quoi il s'agit exactement. Quel type de recherche?
C'est travailler sur la méthanisation, hein, sur les digestats. C'est travailler à faire que nos déchets deviennent une richesse et non plus un problème. Donc, tous les déchets organiques que nous produisons sont pour le projet à venir du Grand Narbonne, hein, seront récupérés, collectés, rentrés dans des digestats et puis produiront du méthane. Hein. Excusez-moi et vous souriez, mais c'est exactement comme un estomac humain. Nous ingérons des déchets, nous produisons du méthane et ce méthane peut être récupéré, réinjecté dans les réseaux, produire de la chaleur, produire de l'électricité. Et donc, c'est détourné de l'enfouissement. Aujourd'hui, nous enfouissons nos déchets. Voilà. Par la méthanisation, par la collecte du bois, par la collecte du plastique, par la collecte des canettes, du fer, etc., tout ça, nous détournons de l'enfouissement et nous donnons une deuxième vie. Sur ce sujet, l'usine de création de combustibles solides renouvelables sera mise en application d'ici fin décembre de cette année, testée. Elle pourra produire jusqu'à 20 000 tonnes par an.
À quel endroit ?
À la mer aussi.
À l'Amber également. La mer.
Et donc elle pourra produire 20 000 tonnes de combustible sur la base des encombrants. Vous savez, les encombrants, ce sont tous nos déchets que nous amenons en déchetterie, enfin partie des déchets.
Qui prennent du volume.
Prennent du volume et qui sont enfouis et qui ne le seront plus. Donc nous allons créer du combustible qui pourra alimenter des chaufferies, des grandes chaufferies pour les grands complexes hospitaliers, que sais-je, enfin qui utilisent du carburant pour chauffer ou pour produire de l'électricité. Sur le verre, le tri sélectif, moi je suis très heureux parce que nous sommes passés en 2015 de 3890 tonnes collectées et en 2017 nous aurons collecté 4300 tonnes. Donc vous voyez une progression de plus de 500 tonnes par an de collecte de verre. Et le verre, quand il est enfoui, il ne se désagrège jamais, alors que il a une vie éternel quand il est recyclé.
Ouais.
Voilà, donc là on va dans le bon sens. Alors nous, collectivité, on s'est mis à disposition des habitants en réfléchissant si notre réseau de collecte était bon, s'il fallait pas faciliter avec les conteneurs enterrés au plus proche des commerçants, au plus proche des habitants pour qu'ils puissent avoir un geste de tri facilité. Et on va aller encore plus loin parce que maintenant dans la vision des professionnels qui produisent le plus de déchets de verre, parce qu'ils vendent des bouteilles de vin, ils vendent des bouteilles d'eau de consommation. Eux doivent avoir à proximité, et donc on va faire un plan pour encore plus faciliter le geste de tri. Donc ça c'est sur le tri. Je voudrais encore une fois souligner aussi un projet qui est porté par la sous-préfecture, par le parc naturel, par le CLIDA et par l'agglomération. C'est la lutte contre les déchets sauvages. On voit dans nos campagnes des gens, je ne comprends pas, qui vont déverser des gravats. Et là, nous avons eu un succès sur la palme, sur le CAT, avec le nettoyage de tous ces déchets, avec une grosse communication à l'encontre de ces gens qui font ça, pour sensibiliser la population. Et donc on a eu une phase assez importante de prévention et de dire attention, ce que vous faites est illégal.
Oui, là on est dans le civisme véritablement aussi.
Oui. Le civisme est plus que ça. On est dans une infraction. Dans une infraction.
Oui, enfin, quand j'ai
donc
dit
une portée à l'environnement. Ouais. Parce que réellement, c'est à l'environnement. Oui. Voilà. Là, on parle d'environnement. Et on a fait donc beaucoup de choses à La Palme et à Le Cat, et donc dans le sud de l'agglomération. Moi, j'ai tenu à ce qu'on étende le dispositif sur la CLAP, donc sur les communes de Narbonne, de Fleury, de Gruissan, de Vinassan, d'Armissan. Et voilà, c'est ce que nous allons faire cette année. Et là, aujourd'hui, je dis attention, on a beaucoup prévenu, on a nettoyé à la charge de la collectivité. Et la sous-préfète qui parle maintenant, mais a été très claire dans les réunions et a demandé très clairement à la gendarmerie, au service de police, maintenant,
de
il
sanctionner.
Faut punir.
De sanctionner.
Et ceux qui se feront attraper après enquête, après avoir jeté des déchets sauvages comme ça, qui embêtent tout le monde des gravats, comme on dit dans la rue, vont charger.
Voilà, eh bien, écoutez, c'est peut-être là-dessus qu'on va conclure, un des exemples très concrets, justement, de l'action au profit de l'environnement, de l'action que peut mener un territoire comme le Grand Narbonne. Merci en tout cas à Guillaume Heras d'être venu une fois de plus nous tenir au courant de toutes ces activités. Le prochain invité sera Didier Aldebert. Lui aussi, c'est le maire d'une commune, Vinassan. Lui n'est pas vice-président, mais il est par contre président-directeur d'Alenis, la société d'économie mixte. Et évidemment, nous nous entretiendrons avec lui de ces sujets pour lesquels le pain ne manque pas non plus. Il y en a beaucoup sur la planche. Merci et à la semaine prochaine.
Merci. Au revoir.